RMC.
Ce qui est dommage, c'est que c'est plus ou moins, plus moins que plus, la première situation au bout de deux minutes pour nous. Mais
RMC, Football Show.
Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Moi, je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus.
Nicolas Villas.
On est ensemble pendant une heure. Vous venez de le vivre il y a quelques instants, la victoire du LOSC 4-0 face à l'OGC Nice. Première affiche de la 23e journée de Ligue 1. Avec ce résultat, le LOSC qui restera deuxième à l'issue de cette journée, qui prend 6 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais. L'OL qui jouera ce week-end, vous le savez, dimanche face au Paris Saint-Germain. On vous attend, supporters du LOSC, supporters des Aiglons au 32-16 sur l'application Direct Studio aussi. On saura l'évaluation également de ce Lille-Nice et puis toute l'actu foot également. On parlera un petit peu de la Coupe d'Asie des Nations également. On sera avec un auditeur qui vit sur place aux Émirats Arabes Unis, qui a vécu tout à l'heure la victoire du Qatar 3-1 face au Japon aussi. Avec nous ce soir, Daniel Riolo. Bonsoir Daniel.
Bonsoir les amis, salut Niki.
Comment ça va?
Très bien.
Comment ça va Dani? Dan, comme dit l'autre.
Non, Ludo Dani, Bragnac si également. Si tu dois choisir, je préfère Dani à Dan.
Dani à Dan, c'est mieux?
Ouais, je préfère. Okay. S'il faut choisir.
Ludovic Bragnac qui est avec nous. Ludo.
Bonsoir à tous.
T'appelles Ludo?
Ah, Lulu.
Lulu, bien sûr, Lulu pour les intimes, bien entendu. Et puis vous l'avez vécu également la défaite du 15 de France face au Pays de Galles. Voilà, le 15 de France qui menait 16-0 à la pause. Mais non, ça n'a pas suffi. Victoire 24-19 des Gallois au Stade de France dans le premier match du tournoi. Destination, les gars, on va débuter cet after par les 3 points, comme d'hab.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Mais souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Tiens, Dani.
Ouais.
Dani, tes 3 points ce soir.
Alors, 3 points, 100% Lille. Le premier pour revenir évidemment sur la très belle prestation de Lille. Le deuxième sur la très belle prestation une nouvelle fois de Nicolas Pépé avec une question qu'il est temps de se poser.
Ah.
Que vaut Nicolas Pépé?
Ah.
Étonnante cette question.
Combien?
Non.
Que?
Et la troisième, eh bien écoute, ça sera un aveu sur la première partie de saison où j'avoue avoir snobé Lille. Pour des raisons extra-footballistiques.
C'est vrai qu'il croyait pas, il y a encore quelques
semaines. Non, c'est pas ne pas croire. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est les snobés pour des raisons extra-footballistiques.
Tu parles des problèmes financiers
qu'il y a eu il y a quelques mois. C'est dire que le projet dans l'ensemble n'étant pas de ceux qui me plaisent, ça me donnait pas envie de m'emballer sur cette équipe et peut-être de la regarder objectivement. C'est-à-dire, bon, peu importe ce qui se passera, ce qui s'est passé ou quoi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, juste d'un point de vue du foot, quoi, quand ils jouent. Et c'est effectivement très très bien, quoi. Et il est temps, ça n'est pas encore trop tard de le reconnaître. Et puis en plus, ce mois de janvier qu'on redoutait, tout le monde est resté.
Ouais.
Donc, qui font cette année, et puis advienne que pourra ensuite.
Alors, Balot Touré est parti, pour être très précis. Mais c'est vrai qu'ils ont perdu qu'un joueur au final, Tes 3 points ce soir, Ludo?
Bah, je commencerai aussi par le LOSC, je dirais Lille au presque parfait ce soir parce que la prestation a été plus qu'aboutie, mais il y a encore quelques petits points à corriger, notamment ils auraient pu encaisser ce but à 2-1 et ils arrivent finalement à faire la décision 3-0. Forcément parler de la fin de mercato du Paris Saint-Germain, est-ce que l'association Tourelle Enrique est encore tenable? Et l'Olympique Lyonnais, c'est quoi cette com? Revenir sur les déclats de Jean-Michel Aulas, de Memphis, de Genesio aujourd'hui, je comprends pas la communication de ce club-là.
Alors, il était en conférence de presse, Bruno Genesio, aujourd'hui, on l'écoutera tout à l'heure. On va d'abord débriefer ce Lille-Nice. Je vous donne mes 3 points vite fait également. Bah, Lille deuxième, voilà, parce que, moi, j'ai... L'histoire du projet dont tu parlais tout à l'heure, bon voilà, Lille fait du trading comme d'autres clubs le font également, mais c'est vrai que je pensais franchement pas que ça allait tenir, et le force est de constater qu'on est déjà en février, et que les mecs
sont deuxième. Va falloir aller les déloger de cette deuxième place là maintenant.
Mais ils peuvent prendre 6 points d'avance sur l'OL.
S'ils perdaient un joueur, même Thiago Mendes au milieu, c'est important de perdre un joueur comme ça. Pépé, on a vite compris qu'il partirait pas. À partir du moment où ces deux joueurs, qui vraiment selon moi sont les joueurs, les deux joueurs essentiels de cette équipe, après, il faut pas oublier les cadres comme Fonte, par exemple. Mais le fait que tout le monde soit resté, je me dis que cette deuxième place, ils peuvent réellement la garder, ouais, vraiment.
Et puis je vous donne également mon deuxième point qui fera office de troisième
aussi. Si Paris gagne dimanche.
Mais c'est l'attaque du LOSC, parce que ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est un symbole, mais les quatre attaquants ont marqué, ce qui est quand même dingue. Même Rémy est rentré en fin de match, il a claqué le quatrième. C'est vrai que pendant un moment, on se demandait qui Galtier allait mettre en neuf. On dirait qu'il a trouvé la bonne formule avec Léa en devant, et Rémy rentre et il marque lui aussi. Vous voulez commencer par quoi d'ailleurs pour débriefer d'ailleurs ce Lille-Nice ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette rencontre ?
Sur la prestation des Lillois, oui, bah c'est plus logique de commencer par ça. La façon dont ils sont rentrés dans le match, ça, de toute façon, ça les a tout de suite mis dans le bon sens. Alors on peut à l'inverse dire Nice a complètement raté son match et notamment sa première période, à l'image du petit Attal qu'on aime beaucoup et qui sur cette première perte de balle,
blessure con. Hein.
Ça occasionne immédiatement le but, mais la balle, c'est pas comme s'il la perdait à 10 mètres de son but ou à 20 mètres de son but. La balle, il a perdu, il était dans le camp des Lillois. Donc là, on a vu ce qu'on voit quand même beaucoup quand on voit le LOSC, à savoir ces phases de transition ultra rapides. Et ben là, ce soir, à partir du moment où ils ont marqué vite, derrière, ça les a placés en position idéale. Et cette vitesse, on a beau être habitué maintenant à les voir faire, à comprendre comment ça fonctionne, leurs passes en diagonale, elles sont tout le temps, franchement, très très bonne. Il y a même des fois, je trouve qu'il y a certaines situations, si jamais il les joue mieux, mais combien ils en collent des buts, bah, ils peuvent en mettre deux de plus, hein. Ils peuvent en mettre deux de plus, hein, sur certaines situations. Après, ça deviendrait une perfection si sur chaque phase de transition, ça se terminait par un but, ce serait la perfection. Mais il les joue remarquablement bien, ces phases-là. Vraiment.
Qu'est-ce que t'as pensé de ton ex, Ludo, ce soir?
Pourquoi mon ex?
Bah, parce que t'as joué à Lille, non?
Ouais, bah, elle m'a toujours.
Ah, c'est à toujours?
Bah oui.
Ah, d'accord. Mais genre Bordeaux, c'est à toujours aussi,
bah,
aussi.
Oui, forcément.
Non, c'est devenu sa maîtresse, il va le week-end. Il passe de temps en temps le week-end.
T'es polygame, toi.
La prestation. Non, mais. Ma femme appréciera.
Ah bah non, mais c'est toi qui le dis, donc c'est tout est toujours. Donc.
Oui, mais on peut, oui.
Ouais, c'est des
non,
clubs,
bah, forcément, la prestation plus qu'aboutie. Mais au-delà de ça, tu vois, Daniel en parlait, c'est la gestion du match. Et moi, ce qui me... Le truc hallucinant, il ne joue quasiment jamais de passe vers l'arrière, oui. Très peu de passe latérale. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent des attaques placées ou même en attaque rapide. Il y a toujours, c'est souvent en Ligue 1, c'est souvent le passeur qui déclenche l'appel de l'attaquant. Or au LOSC, ce sont les attaquants par leur mouvement
qui
permanent
appelle
vers l'avant qui donnent le tempo des passes, et c'est ce qui fait que en plus de ça, il joue rarement à quelques occasions, j'ai vu une ou deux fois Bamba peut-être faire la touche de trop ou le contrôle de trop, mais autrement, c'est toujours joué dans le bon tempo, c'est toujours joué une touche quand il faut, ils savent gérer les temps forts, les temps faibles.
Et moi, c'est leur diagonale qui m'impressionne le plus.
Mais tu sais,
j'adore quand les deux sur les côtés font un pas en arrière pour prendre le ballon et repartent et ils mettent dans les diagonales. Mais je trouve que c'est vraiment bien ça.
Ce qui est aussi surprenant, c'est que quand t'as trois joueurs à vocation offensive, même quatre, de ce niveau-là, tu peux avoir tendance des fois à désorganiser défensivement.
Ou déséquilibrer, ouais, c'est ça que tu veux dire. Ouais.
Et c'est jamais le cas. C'est-à-dire que les deux au milieu, qu'on cite très rarement, ils ont une capacité, que ça soit Thiago Mendes ou Cheka.
Ils sont excellents. On devrait les citer. Pour moi, c'est une des forces de cette équipe, c'est ce duo-là.
C'est cette capacité, eux, à, sur la gestion et la hauteur du bloc. Ils ne sont jamais pris à défaut, même quand ils sont en train d'attaquer à 4. Je vois des mouvements permanents avec les latéraux. Enfin, tout a été bien huilé ce soir, excepté sur 2-3 occasions où Nice aurait peut-être pu revenir à 2-1, ça aurait peut-être été différent, mais globalement, ça a été un match particulièrement abouti.
Alors sachez que Jérôme Thomas a écouté la conférence de presse de Patrick Vieira là il y a quelques secondes. Vieira qui a concédé que Lille était beaucoup plus fort et que la Nice était passée complètement.
Non, mais clairement que Nice rate son match, mais le constat il est simple. Lille c'est vraiment au-dessus. Alors je disais. Dans mon troisième point, l'aveu, j'ai pas vraiment voulu. Enfin, je les ai regardés, mais toujours en me disant, de toute façon, à quoi ça sert l'année prochaine, machin. Donc, à partir du moment où je veux inverser cette vision, forcément, ça pousse à se dire, bon, qu'est-ce que pourrait faire ? C'est comme je disais, que vaut Pépé ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire et qu'est-ce qu'on aimerait voir que cette équipe reste ensemble finalement ? Pour la voir aller en Europa League ou en Champions League, c'est ça en fait qui moi me blesse.
Frustre.
C'est et qui engendre une frustration, c'est que tu te dis En fait, il n'y aura pas d'aventure, malheureusement. Tu auras une aventure en Ligue 1, comme on en a eu beaucoup dans les années à venir. C'est marrant, parce que pendant que je regardais ce soir, je repensais. Je me disais, ben, le Montpellier de 2012, on s'extasiait, ça jouait vraiment très bien. Hein. Et puis, bah, l'année d'après, ça s'est disloqué.
Mais justement, est-ce que pour
un
toi,
un mec ou deux sont partis.
Ça... Toi, tu parles de modèle, mais finalement, est-ce que ce que Lille fait, finalement, c'est ce que les autres clubs font, mais de façon totalement décomplexée. C'est-à-dire, eux admettent le fait que ils sont une étape intermédiaire et que autant se faire un max d'oseille, tu vois, qui t'allait
pas. Mais je sais bien, mais c'est dommage. Oui, c'est un phénomène qui est pas unique dans le foot d'aujourd'hui, malheureusement. Donc. Pour rester là sur l'appréciation, on voit cette équipe, ça joue bien. Nicolas Pépé, il va partir pour une somme folle cet été.
Thiago Mendes là.
Où ça? Et en fait, moi, j'aimerais savoir ce que vaut Nicolas Pépé. En Ligue 1, là, je le trouve extraordinaire.
Deuxième meilleur buteur et deuxième meilleur passeur de Ligue 1.
Vraiment, ses choix, sa lucidité, les prises de décision, bien. Mais qu'est-ce qu'il vaut? Parce que comment je le vois jouer comme ça, je me dis, non seulement il a sa place à Lyon. Alors là, pour le coup, vraiment mais tranquille.
Même à Paris.
Bah à Paris, j'ai pensé, mais je vois pas qui dans l'attaque à 3, je vois pas où. Mais il n'empêche que dans le groupe,
on parlait hier par rapport à tous les incidents qu'il peut y avoir, notamment sur le fair play financier. Et si tu fais pas un parcours, notamment en Ligue des Champions, on se disait qu'il y aurait forcément une des deux stars qui partirait. Et il pourrait pas être un bon remplaçant.
Ah, tu veux dire éventuellement. Alors faisons une sorte de cas de figure. Voilà. Là, hop, bim, Mbappé s'en va. Parce que Paris a besoin, il le vend 200 millions, machin. Pour la moitié, un peu moins de la moitié, tu prends Nicolas Pépé parce qu'il a brillé en Ligue 1. Est-ce que, je te pose la question, imagine-toi directeur sportif, est-ce que, sachant que ses seules références, c'est la Ligue 1, où moi je le vois magnifique, est-ce que tu le tentes? C'est une vraie question.
Honnêtement, moi.
Je ne sais pas, je sais pas si...
C'est vrai que t'as moins de garantie que si tu vas chercher un Cavani, par exemple. Alors sans parler de Mbappé qui a coûté 100 millions mais qui a un phénomène
ça, non ou même un Willian à Chelsea
ça se tente
ouais, ouais,
par exemple
ouais,
un joueur
ouais,
de côté
ouais mais qui est un joueur confirmé
ça se tente dans le sens où aujourd'hui trouver ce profil de joueur si tu vas le chercher dans un grand club à l'étranger t'en as pas 50 et tu auras allez tu peux compter 100 millions d'euros à peu près si tu veux un joueur.
De toute façon ça partira pas voilà. 80 là maintenant les offres elles risquent d'être importantes.
Disons que tu peux peut-être trouver un accord à 70 entre 70 et 80.
Je te pose la question autrement.
La question c'est est-ce que tu le fais moi, à ce prix-là est-ce que tu penses qu'il peut parce que sa référence n'étant que Ligue 1. Là moi je le trouve magnifique dans ce championnat cette année. Et le truc c'est qu'on va le savoir quand il partira mais que ce sera ça sera pas à Lille. Moi j'aurais aimé voir
combien on en a laissé partir comme ça des profils de ce genre-là qui flambent aujourd'hui à l'étranger. Bah, des Dembélé, des Coman, tous ces joueurs-là qui auraient pu rester chez nous,
même Aubameyang, qui ont des
profils.
Part de France aussi. Hein.
Moi je suis directeur sportif du Paris Saint-Germain, je tente le coup tous les jours.
Bah tu penses à genre
tous les jours.
Comment bon, il est pas dans la flambe absolue au Bayern, hein, mais bon.
Bah, okay, il a beaucoup de blessures aussi.
Martial peut rentrer dans cette catégorie-là.
Mais pourquoi nous on se pose des questions en disant est-ce qu'il là, le niveau du PSG, alors qu'on se dit très bien qu'il y aura un gros club étranger qui viendra le tenter.
Tu as raison.
Les gars, on va accueillir Vincent, supporter de Lille, qui nous a appelé au 32-16 et qui voulait évoquer justement
Nicolas Pépé.
Vous pouvez mettre Vincent, les mecs, s'il vous plaît.
Lyon, en revanche, c'est pas possible. 80 millions, ils savent pas mettre, ils savent plus mettre.
Non, mais t'es plus assez.
C'est la lutte des classes. C'est commencé à Lyon en ce moment.
T'attires plus assez du côté de Lyon. Clairement.
Ouais. Bah malheureusement, ils ont failli l'avoir. C'est pour ça que je cite ce club.
Et quand je vois encore, on en parlera tout à l'heure, mais quand tu vois que même fils de paye, enfin de paille, ou il est capable de faire une déclaration comme il l'a faite sans être pris. Peu importe ce qu'on en pense, hein, il a peut-être raison, mais de le dire ouvertement de la sorte avant un Noël Barça, avant un Noël Paris Saint-Germain, sans être recadré. Tu te demandes.
Non, mais ils sont plus du tout dans cette optique-là.
Tu peux te poser des questions.
On a l'impression que plus ça va, plus dans leur com, on a l'impression qu'ils rapetissent.
Les gars, on accueille Vincent, supporter de Lille. Salut Vincent.
Toujours plus petit, je comprends pas.
Bonsoir messieurs.
Comment ça va Vincent?
Ça va bien. Et vous?
Ça va, merci. Écoute, je crois que tu voulais faire un focus, toi, justement, sur Pépé. Alors, visiblement, t'as expliqué que, toi, Pépé, il te rappelle un autre joueur passé par Lille et qui, justement, est devenu une grande star à l'étranger, en Angleterre notamment. C'est Eden Hazard, c'est ça?
C'est-à-dire que je voulais parler de deux choses. Dans un premier temps, je suis assez d'accord avec Daniel sur le projet, c'est-à-dire que supporter du LOSC depuis 1997, j'ai un peu du mal et j'arrive plus à supporter le LOSC à cause de ce projet aussi. J'ai beaucoup de mal à ce que un Gérard Lopez puisse s'enrichir sur le dos d'un club et en chiant un peu sur les valeurs du club. Ludo, je pense que tu sais de quoi je parle. C'est qu'un enrichissement personnel en s'appropriant vraiment le LOSC qui est en bafouant les valeurs du club. Donc ça me reste vraiment en travers de la gorge. J'ai beaucoup de mal à et j'ai une haine viscérale envers Gérard Lopez et je ne supporte pas ça.
Tiens, Vincent, juste deux secondes. Vincent, coupe pas. On écoute juste Christophe Galtier qui est en direct en conférence de presse. Reste avec nous.
C'est un match abouti, oui.
On parlait des concurrences avec la semaine dernière de Marseille, qui sont maintenant à 15 points, mais avec deux matchs en moins. Là, Nice, 12 points d'écart, un petit peu à la fois. Vous mettez tous vos prétendants, tous les prétendants à l'Europe à l'écart. C'est intéressant pour vous, ça?
Oui, c'est intéressant de gagner. Si je me trompe pas, je crois qu'on est à 2 points de moyenne par match. Le fait de gagner déjà le vendredi soir et de creuser des écarts, même s'il y a des matchs à jouer, c'est toujours agréable. Ça peut mettre un peu de pression aussi sur les autres. Mais on relâche pas. Non, là, je vais mentir. Donc, on relate quand même ce qui se passe derrière. Mais il faut rester concentré sur ce que l'on fait et sur ce que l'on doit faire. Maintenir un niveau d'exigence incroyable pour que cette jeune équipe puisse s'exprimer et prendre plaisir à jouer comme elle a pris ce soir. Ce soir, elle a pris beaucoup de plaisir. Mais le plaisir qu'on a pu ressentir, hein, certainement, j'ai vu qu'il y avait du plaisir autour du terrain, dans les tribunes. C'est aussi le fruit de beaucoup d'efforts consentis par les uns et par les autres, par mon groupe, parce que on ne fait pas ce genre de match-là par hasard. Et depuis la reprise, j'ai un groupe qui travaille beaucoup et qui est beaucoup à l'écoute. J'avais demandé à mon staff qu'on puisse trouver d'autres chemins sur le terrain, d'autres cheminements pour pouvoir un peu surprendre l'adversaire et ne pas ronronner comme on a pu ronronner sur la fin de l'année 2018 à domicile. Et voilà, c'est, pour l'instant ça va, c'est bien.
Voilà la réaction en direct de Christophe Galtier après le succès de Lille ce soir, 4-0 face à Nice.
Pour Galtier, Ludo, c'est un entraîneur qui là cette année est en train de faire quelque chose de très très bon. En plus, on voit qu'il s'applique, qu'il sent que l'équipe à un moment a été un peu moins bien. Il arrive à
relancer. Daniel, je te coupe. On a Laurent Dupré qui est en direct au Stade de France. Défaite du 15 de France face au Pays de Galles. Jefferson Poirot. Ouais, au micro de Laurent Dupré.
Ça, c'est aussi une idée qu'il va falloir s'enlever de la tête. Parce que ça commence à sérieusement m'agacer quand je vois les matchs qu'on fait. Moi, j'ai très clairement peur de aucune équipe sur le circuit international. Et on vantait cette défense. Je les ai vus inquiets comme les autres. Quand on a fait nos lancements, donc ça c'est un truc qu'il va falloir s'enlever de la tête, et je parle pour tout le monde, médias compris. Et par contre, nous, ces petites erreurs, il faut absolument les gommer. Et ça, c'est, je sais même pas si c'est de la concentration ou ça m'énerve de parler de malchance, mais à un moment donné, c'est incroyable. Comme j'ai dit au début, c'est de l'irréel. À des moments, on a l'impression que c'est de l'irréel, parce que on se dit non, ça peut pas encore nous arriver, parce que c'est sur les 5 derniers matchs, si on regarde nos matchs, c'est exactement les mêmes scénarios.
Voilà. Est-ce que c'est pas un peu décourageant quand même?
Décourageant non, parce que nous on se recentre vite aussi sur ce qui marche, et ce qui marche c'est que voilà, comme j'ai dit, on est capable de d'ébranler n'importe quelle équipe sur du jeu, de vitesse, de mouvement, quoi qu'on puisse en dire. On est capable de rivaliser physiquement, on est capable voilà d'être fort en conquête, on est capable de porter le ballon et d'avancer, voilà. Mais à chaque fois on a ce grain de sable qui vient tout nous casser, quoi.
Vous savez que ce premier rendez-vous est important pour...
Voilà, la réaction directe de Jefferson Poirot, joueur du 15 de France, qui s'est incliné ce soir 24-19 dans le premier match du tournoi Destination. Les Français qui menaient 16-0 à la pause. Vincent, t'es toujours avec nous,
Jefferson?
Oui, toujours avec vous.
Poirot.
Ouais, c'est un beau mélange.
Il joue contre le Pays de Galles.
Voilà.
C'est drôle.
Ouais, Vincent, tu parlais du fameux modèle, du coup, du LOSC, toi, qui te convainc pas non plus.
Non, mais c'est voilà, je suis un puriste, et puis j'ai toujours apprécié les valeurs de Lille. Et là,
mais ça veut dire que tu n'arrives pas à prendre à cause de ça. Ça te gâche un peu le plaisir de cette année, parce que ton équipe,
exactement,
elle joue quand même très très bien, tu vois.
Non, mais j'arrive pas à les supporter. Voilà, je refuse de participer au fait qu'une personne puisse s'enrichir sur Lopez. Il est venu, il a tenté sa chance avec plein de clubs, avec Marseille, avec Nice, avec il arrivait, Lille, c'est qu'un prétexte, et j'ai l'impression que par moment, on est un peu les, pour pas dire de gros mots, ceux qui permettent d'en réussir Lopez, et ça, je le supporte pas, quoi.
Mais après, Vincent, je vais aller dans ton sens parce que je comprends ta frustration. Je comprends maintenant en tant que supporter, puisque je suis maintenant supporter du LOSC, je comprends la difficulté et c'est pour ça aussi l'explication. Le LOSC est deuxième ce soir, mais à 6 points Lyon et le stade n'est pas plein, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Mais je comprends la difficulté de s'attacher. Le supporter a besoin de s'attacher aux joueurs sur la durée, c'est-à-dire
et il a besoin de rêver,
il a besoin de
rêver, donc voilà, d'anticiper, d'être dans le kiff de cette année et de se dire putain l'année prochaine si on va en Ligue des Champions, il peut avec se passer quelque chose avec cette équipe. Et tu sais que au mois de juin, en gros, il faut il faut être dans le plaisir instantané, juste le plaisir. Et comme le plaisir instantané Ligue 1, il offre pas non plus tout le temps des méga plaisirs parce que la récompense c'est toujours l'Europe finalement. Ça engendre.
Et quand tu sais qu'à la fin de l'année il y aura une cassure, c'est-à-dire que tu sais qu'un joueur auquel tu t'es attaché,
tu sais d'avance qu'il va plus être là,
il sera pas là. Et je peux comprendre la difficulté d'aller au stade et de.
J'introduisais autre chose. J'étais en train de parler de Galtier.
On coupe les mecs. Dernier invité rugby, Maxime Médard.
Voilà. Je ne pourrais pas parler de Galtier. Bravo, monsieur. Merci, monsieur.
Voilà, ça remet dans le match, mais encore une fois. Les Gallois n'étaient pas, je pense pas, étaient plus forts que nous ce soir.
On a l'habitude de dire que seule la victoire compte. Malheureusement, le 15 de France additionne les revers.
Oui, bien sûr, mais. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est sûr qu'aujourd'hui, le constat est là. On a perdu contre l'Afrique du Sud, on a perdu contre les Fidji. Là, on perd déjà le premier match du tournoi. Donc, c'est sûr que ça joue pas en notre faveur. Mais il y a beaucoup de choses de positif sur ce match. Il y a encore une fois, il y a un manque de maîtrise. Mais au-delà de ça, il y a quand même de la qualité. Et je sais que c'est peut-être... un rêve, mais en tout cas, si ça tourne dans notre faveur, je pense qu'on peut être une sacrée équipe.
Est-ce qu'on peut lier la maîtrise à la confiance? Les Gallois, ils marchent sur l'eau depuis quelques mois, vous avez le poids des défaites.
Les Gallois, ils avaient enchaîné, je crois, 9 victoires, c'est la 10e. C'est sûr qu'ils ont plus de confiance que nous, mais au-delà de la confiance, on donne des essais trop facilement et bêtement. Et voilà, après, c'est un manque, on essaye de revenir à la fin, mais c'est sûr que ils ont une bonne défense, ils ont changé la défense à la fin pour nous fermer, pour pas qu'on écarte, et c'est vrai qu'on a eu du mal, et avec le temps qu'il faisait ce soir, c'était compliqué.
Voilà, la réaction directe de Maxime Médard, le 15 de France, qui s'est donc incliné 24-19 face au Pays de Galles, au Stade de France, premier match du tournoi des Six Nations. On était en train d'analyser la victoire de Lille ce soir face à Nice 4-0. Tiens, une petite déclat de Christophe Galtier en conférence de presse. On lui a posé une question sur Thiago Mendes qui est annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Galtier a répondu, ça m'aurait fait plaisir pour lui qu'il signe au PSG. Voilà, ça s'est pas fait au final, mais... voilà, ce qu'a déclaré l'entraîneur. Ah, tu vois,
c'est pour ça qu'on juge peut-être un peu Gérard Lopez, un peu peut-être de manière un peu trop hâtive, puisque je pense que Thiago Mendes aurait pu partir cet hiver et que finalement il est toujours là. Donc est-ce que qui aujourd'hui, quel modèle et même Lyon, tu le vois, puisque on en parlait avant, mais Depay a pas été peut-être recadré parce que c'est une valeur marchande.
Je suis bien conscient que le foot est en train de changer complètement, mais je suis pas encore totalement résigné à ça, donc je le déplore forcément, quoi. Thiago Mendes ne part pas parce que éventuellement il pouvait aller à Everton si le PSG réussissait à faire Gay, donc ça faisait un jeu de chaise musicale. Au final, le PSG s'intéresse à Mendes, ne fait pas d'offre réelle pour Thiago Mendes, donc finalement il reste. Il y a la Chine qui propose quelque chose et jusqu'au 20, je sais pas quoi, février, c'est encore possible. Bon, ok, et j'entends, donc je voulais parler de Galtier, monsieur Villas.
Alors attends, non je déconne.
Et tu dis que il vient de dire ça m'aurait fait plaisir. Donc ça lui aurait fait plaisir qu'un de ses joueurs phares, un joueur pilier de cette équipe, s'en aille en pleine saison. Je trouve ça un petit peu curieux. Et lui, comment il fait? Il fait une belle saison. Tout se passe bien. Le jeu pratiqué par son équipe est intéressant. Et il peut pas bosser avec l'idée qu'il est dans un projet où il va conserver les joueurs, ou alors il a complètement admis que le foot était désormais comme ça, que c'est nous qui le regardons, supporters, observateurs, qui sommes complètement largués, parce que on vit dans un monde qui n'est pas le monde réel et que lui a déjà compris que de toute façon c'était comme ça, qu'il est très heureux comme ça, qu'il est entraîneur, que ça se passe bien, qu'il est dans son année, qu'il va aller au bout, qu'il va peut-être faire deuxième, et puis il est au courant de tout ce qui va se passer, donc parte qui devra partir.
Non, après il a dit qu'il était content qu'il soit resté quand même, Galtier aussi.
Ouais, mais bon. Après, moi si je suis entraîneur, j'ai envie de dire, putain cette équipe, je veux l'emmener en Coupe d'Europe.
Après, tu veux le mieux pour tes joueurs aussi.
Imaginons. Mais la plupart des grands entraîneurs aujourd'hui font ça. Mais après, t'as une catégorie de ceux qui sont résignés, qui disent bon ben ça doit être comme ça. Mais il y a quand même encore des entraîneurs dans les gros clubs qui se battent pour pas qu'on leur enlève les joueurs.
Dans les gros clubs. Qui disent là le LOSC, Galtier, il le sait.
À Dortmund, Weigl qui pourtant démarre pas titulaire. Joue ensuite parce que d'abord Favre semble ne pas compter sur lui, après il manque un mec derrière, donc il le met, donc en gros ils ont besoin, tu vois, de joueurs pour jouer à tous les postes et tout. Le PSV vient à la charge, propose une belle somme, le directeur sportif très vite, Zorc, dit il ne partira pas, Favre en a besoin, donc il y a encore des clubs où ça tient. Ouais. Il y a encore des clubs où on veut aller au bout d'aventure. Dortmund a une belle aventure, ils peuvent être champions d'Allemagne et ils peuvent aller plus loin encore en Ligue des Champions. Donc tous les clubs ne sont pas encore comme ça.
La marche est encore, il y a encore une marche entre Lille et Dortmund.
Mais il y a plus qu'une marche. Donc, non, c'est pour dire que dans le foot d'aujourd'hui, en gros, il va y avoir des catégories de clubs. On sait.
C'est déjà le cas.
Ben je sais.
Mais peut-être que Galtier se dit aussi, voilà, si on accroche cette fameuse deuxième place. Pépé qui va partir pour un certain prix. Si t'accroches la Ligue des Champions, tu vas récupérer la bagatelle de quoi, entre 20 et 30 millions d'euros.
T'investir un dixième de la somme, parce que le but c'est justement d'aller prendre des mecs pas chers.
Est-ce que par rapport à Campos qui a quand même un réseau intéressant, est-ce qu'il y a
Campos
pas
ça va se barrer, alors, te dire.
Ouais, tu penses?
À Monaco, ils veulent le récupérer. Hein.
Ah oui, bah ça. Ouais. C'est sûr.
Non mais le truc c'est que si en Ligue 1, on a 19 équipes qui sont dans ce modèle et une qui essaye d'être comme les autres.
Faut reprendre aussi
pour notre foot, c'est compliqué quand même.
Faut reprendre l'histoire de départ. D'où vient Christophe Galtier aussi? Christophe Galtier, il a un moment où il récupère le LOSC, mais il a pas 50 000 demandes non plus sur la table. Ouais, quand il signe au LOSC, on lui explique le projet, il s'adapte.
Tiens, le mot de la fin pour toi, Vincent.
Et il s'adapte plus que bien.
Il est obligé de s'adapter.
S'il a quand même sauvé le club, il faut le
Vincent.
Dire.
Bien sûr.
T'es toujours là, Vincent? Ben non, Vincent, il s'est barré. Il est plus là, Vincent?
Mais
c'est bien, Vincent. Il est là. Ouais, on t'entend maintenant.
Pas évident de conclure après tout ça, mais disons que vous avez compris ma position sur le projet que je trouve vraiment abject. Je pense que je suis assez d'accord avec toi sur l'appartenance des joueurs au niveau des supporters, c'est-à-dire qu'on s'identifie aux joueurs globalement ou à tout le monde, sur les gens au niveau du LOSC. Pour comparer Eden Hazard et Pépé, on compare pas l'un contre l'autre parce que Eden Hazard c'est un enfant du club qui a porté haut le club et qui a vraiment éclaté. Pépé n'est que de passage à Lille. Je me rappelle l'année dernière, il faisait quand même des doigts d'honneur aux supporters et là c'est devenu l'idole d'un tout un stade. Le foot ça va assez vite, mais sur les qualités intrinsèques de Pépé, depuis Eden Hazard, j'ai pas vu un joueur aussi fort parce qu'il joue juste, il est puissant, il est efficace. Aujourd'hui, il a marché sur l'eau. Si on met ce côté arriviste et servir du LOSC comme tremplin, il est vraiment impressionnant.
Ah ben lui est pas arriviste, Vincent.
Bah c'est le, il a pourquoi il est venu à Lille, c'est pour lancer sa carrière maintenant.
Il a pas fait le forcing cet hiver pour se barrer non plus, Vincent. Par exemple. Hein. Il est pas allé au forcing cet hiver pour partir. Il y avait des propositions.
Et c'est ce que je voulais dire aussi sur Thiago Mendes, parce que il a été respectueux entre guillemets en ne faisant pas le comment on appelle ça de forcing comme tu dis pour aller à Paris. Et aujourd'hui il a fait un très bon match. Ça veut dire qu'il a il a digéré ce qui s'est passé au niveau du mercato, mais c'est vrai que si on y réfléchit, si Lille termine deuxième, la valeur des joueurs elle sera encore plus importante. Et je suis convaincu que Lopez, Ingla et Campos, ils ont des pourcentages sur les ventes des joueurs. Et c'est pour ça que Campos et Ingla sont là. C'est pas pour les fricadelles du vent, c'est justement pour avoir des pourcentages de revente sur les joueurs et de se faire de l'argent sur le
développement. Mais tu sais, ça n'a pas, enfin cet effet là que tu ressens, il n'y a pas que le rapport joueur. Supporter, il y a aussi le rapport joueur gens qui travaillent au club. C'est-à-dire que avant dans les clubs, il y avait des garçons qui étaient identifiés, estampillés club, qui restaient 3, 4, 5 ans avec qui tu pouvais nouer des liens, il pouvait y avoir encore cette familiarité avec le côté administratif ou d'un club où justement ces gens qui travaillent pour toi dans l'ombre ont besoin aussi de sentir à un moment donné un retour, mais ça existera de moins en moins parce que les joueurs sont amenés dans le football qui arrive à rester 6 mois, 1 an, à être de passage pour aller voir d'autres cieux.
Vincent, merci d'avoir été avec nous. Ne raccroche pas, on t'offre un DVD, le cas Benzema, voilà le documentaire sur Karim Benzema, c'est cadeau mon pote. Tu l'as déjà ou pas, Daniel?
Oui, en double.
Dédicacé, d'ailleurs, paraît-il.
Ah, non, j'ai une magnifique photo dédicacée.
Oui, j'ai vu ça, effectivement. L'on se retrouve dans quelques instants avec Noé, autre supporter du LOSC, supporter de Nice. On vous attend également au 32-16. On vous rappelle, première affiche de la 23e journée de Ligue 1, pardon?
Noé.
Exactement.
Un vrai prénom.
Ouais, c'est rare. Victoire 4-0 de Lille face à Nice ce soir. On vous dit à tout de suite avec Ludo Braillac et avec Daniel Riolo. À tout de suite.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Ludo Braillac et de Daniel Riolo, on vous rappelle que ce soir le LOSC s'est imposé 4-0 face à l'OGC Nice, première affiche de la 23e journée de Ligue 1. Je vous ai pas donné les résultats de la 23e journée de Ligue 2, un partout entre Metz et Troyes, un partout aussi entre Niort et Nancy, pas de but entre Auxerre et le Red Star, 2-2 entre Châteauroux et Grenoble. Lorient s'est imposé à 10 contre 11 face à l'AC Ajaccio 1-0, un partout entre Le Havre et Brest, un exclu de chaque côté là aussi, pas de but non plus entre le PFC Orléans et Sochaux a battu Clermont 2-1. Voilà pour ce qui est des résultats de Ligue 2. On était sur ce match entre Lille et Nice, la victoire 4-0 du LOSC. On rappelle les buteurs, Raphaël Dian à la 8e, Pépé à la 37e, Bamba 75e, Rémi dans le temps additionnel et les Lillois qui resteront 2e à l'issue de cette 23e journée de Ligue 1. Un mot sur Nice quand même aussi. Alors Nice qui a pas été active d'ailleurs sur le mercato, pareil que Patrick Vieira d'ailleurs a un peu déploré le fait qu'il n'y ait pas eu de renfort.
Ce qui se passe au club en ce moment là, ils ont un peu la tête ailleurs. Ouais. C'est une belle première pour le nouveau président d'ailleurs. Il a été intronisé ce soir, non? Enfin, du moins qui était au stade.
Passation de pouvoir.
Lui aussi, hein, quand tu l'écoutes, sa vision du foot, au moins il est clair. Lui, pour le coup, il va pas le vendre le rêve. Hein. Tout est clair.
Ouais.
Et voilà.
Tu disais, toi, t'as pas trop compris le dispo tactique
non,
de Vieira.
Je sais pas que j'ai pas trop compris, c'est qu'il a tenté quelque chose. Il nous a habitués depuis plusieurs mois à sa fameuse défense à 5. Avec laquelle il avait trouvé une
certaine... Il a commencé avec ça.
Non, il a commencé à 4. Il a commencé à 4 et Attal en fait a joué ailier. A pas joué dans la défense à 5, il a joué ailier droit.
Pour moi ça a basculé après le premier but
4-2-3.
Au départ, ils sont 3 derrière.
Je suis pas certain.
Moi, je crois qu'il débute à 5 aussi.
Pour moi, s'il bascule
ça dépend de la position d'Attal, mais pour moi Attal jouait ce soir comme ailier puisqu'il a déplacé l'habituel arrière gauche
après le premier but. Après le premier but, Saint-Maximin s'est écarté à gauche et ils sont passés à 4, il me semble hein, mais bon après tout, ils ont tellement été bousculés que peut-être on savait même plus comment ils étaient placés.
Parce que justement, la force du LOSC ce soir, c'est d'avoir bloqué les ailiers très hauts, avec notamment Tchelik et Koné qui ont défendu très fort sur Attal.
C'est comme ça que vient le premier but.
Et le premier but vient sur une récupération.
Éclate un peu
et beaucoup d'autres actions sont venues justement sur les côtés.
Ton avis, toi, sur ce Nice, Daniel? Ils sont vraiment passés à côté de leur match, comme a dit Vieira en conf, ou c'est le mal le plus profond?
Je pense que Lille est plus fort et a des meilleurs joueurs à quasiment tous les postes. Quand ils marquent, c'est quoi, 7e minute? Le but vient tout de suite. Dans la foulée, il n'y a pas pu avoir de réaction parce que Lille a maintenu un bon tempo. Il y a juste une supériorité qui a été absolument évidente. Je peux même pas dire qu'ils ont raté leur match, quoi. Sur la seconde période, ils ont essayé de reprendre un petit peu le ballon. Ils ont essayé d'être un petit peu mieux, mais au milieu de terrain, ils se faisaient souvent déchirer. Ils voyaient bien, il a tardé. J'ai vu qu'il voulait faire rentrer Lesmelou. Peut-être fallait-il le faire plus tôt, mais quand il est rentré, il a pris. C'était sur la fin qu'il a pris le rouge, mais bon. En fait, il y a jamais eu de bonne solution, quoi. On n'a jamais réussi à toucher les attaquants. Non, mais je crois que simplement ils sont vraiment en dessous. Lille, c'est plus fort.
Alors ça, tu parlais de la coulisse. On a Laurent, supporter des Aiglons, qui nous a appelé au 32.
Qu'on avait Noé.
Attends, on va l'avoir après. Noé aussi. On va se faire les vals avec Noé dans quelques instants.
D'accord.
Salut Laurent, supporter de Nice.
Donc toi, tu changes les auditeurs.
Ah non, mais là on parle de Nice.
C'est toi.
Ouais, c'est Laurent.
Bonsoir messieurs.
Ça va Laurent?
Bah ça va bien. Écoutez, messieurs, bah déjà, je vous souhaite le bonsoir.
Bah, toi aussi.
Et puis, plutôt que de revenir sur le match, je voulais, si vous permettez, parce que du côté niçois, vous avez tout dit, enfin, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, on a été dominé par une très belle équipe lilloise. Moi, je voudrais revenir sur le drame que s'apprête à vivre le club de Nice. Moi, je suis supporter depuis longtemps, depuis 30 ans de ce club. Je suis intervenu souvent dans l'after pour parler de ce club. Et je suis même plus inquiet, là, je suis complètement désabusé, parce que, juste en une petite minute, si vous permettez.
Vas-y, Laurent.
Faut quand même savoir que le président River avait accédé aux demandes de Vieira de 3 joueurs offensifs. J'en connais deux, c'était Boutbouz et Germain, suite notamment au transfert de Balotelli. Et ces 3 joueurs offensifs, c'était en prêt, donc pas spécialement cher, surtout avec le départ du plus gros salaire du club, Balotelli. C'est exactement ce qu'il fallait à cette équipe de Nice, des joueurs de 28-29 ans pour encadrer les jeunes. Il faut savoir quand même que Nice est une des rares équipes européennes à jouer sans aucun milieu offensif et avec un seul attaquant digne d'être titulaire Saint-Maximin, puisque les autres, ils ont 18 ans, ils ont fait que, allez, les Maolida et Ganogo, ils ont fait un quart de saison en Ligue 1 et encore. Donc, ces joueurs qui étaient tout à fait une aubaine pour Nice ont été refusés au dernier moment par la nouvelle direction, les trois.
C'est parce que ce sont des joueurs qui n'ont pas de valeur marchande, c'est pour ça.
Voilà, bah oui, mais les valeurs marchandes, c'est peut-être que justement les jeunes en auraient pris grâce à ces trois joueurs, mais ça c'est autre chose. Ah. Et du coup, ces trois joueurs ne sont pas venus et les nouveaux actionnaires ont argué du fait qu'eux-mêmes allaient s'occuper du recrutement en étroite collaboration avec Patrick Vieira. Tellement étroite la collaboration qu'il n'y a eu personne. Du coup, que va faire Patrick Vieira? Il y a une chose qu'il faut savoir et qui est peut-être pas très connue, c'est que Patrick Vieira a une clause de départ dans son contrat si la direction part. C'est-à-dire si River part, Vieira peut partir demain. Ça, c'est une clause qui a été dans le contrat de Patrick Vieira. Donc, il peut partir demain. Je pense que connaissant le monsieur, en tout cas de son travail et son honnêteté, il va certainement rester jusqu'à la fin de la saison, quoi qu'il doit être bien énervé. À la fin de la saison, il n'y aura plus Patrick Vieira. Les nouveaux actionnaires qui veulent faire du trading de joueurs...
Il n'y aura plus Vieira s'il trouve du taf ailleurs. Le problème, c'est qu'après, quand tu es lancé dans ta carrière d'entraîneur,
ouais,
t'es payé et te retrouves
après,
au chômage.
Après, ça dépend comment ça se passe.
Si on te propose quelque chose, ouais, mais sinon,
mais ça dépend comment ça se passe. Imagine que là, les résultats soient pas là et qu'il ait une pression. Vas-y, Laurent, vas-y.
Je termine, j'en ai pour 15 secondes. Donc, Patrick Vieira, de toute façon, va partir, ce qui aurait été peut-être moins évident si River était resté, parce que le projet lui plaisait. Bon. Et vu le bon boulot que fait Vieira, ça va être un drame. Les nouveaux actionnaires vont vendre tout ce qui est vendable, connaissant un peu leur philosophie, qui est à l'opposé de celle de Vieira. Donc, de toute façon, il sera plus là. Comme ils ne savent pas recruter, ces nouveaux actionnaires, on l'a vu là, et qu'ils ne veulent peut-être même pas recruter, parce que là, quand même, Nice va s'apprêter à vivre une saison extrêmement difficile l'année prochaine. Moi, je vois même la Ligue 2 si ces gens-là restent à Nice, je vois pas comment Nice peut s'en sortir.
Parce qu'ils pourront s'en sortir parce que t'auras plus faible en dessous.
Oui, peut-être. Oui, la chance de Nice, ça serait qu'il y ait 2-3 équipes plus faibles. Mais vu la belle progression de Nice ces 7 ou 8 dernières années, c'est vraiment un drame.
Ce qui est terrible avec ton intervention, Laurent, c'est que on a eu celle avant du supporter de Lille qui est deuxième du classement où tout va bien et on a également une attitude un petit peu bizarre du supporter qui ne sait plus comment regarder son club. Il se peut très prochainement que tu aies aussi des Lyonnais qui comprennent plus vraiment ce que fait leur club, qui a pourtant un très gros budget et qui doit être un
moteur
pour notre championnat. Mais tu parlais, tu avais envie de parler de la com, mais moi aussi je suis d'accord avec toi, je comprends plus ce que veut réellement faire le club maintenant. Il y a plusieurs semaines que je dis que je suis inquiet pour la Ligue 1 et pour la tournure qui est en train de prendre le championnat sur les objectifs des gens qui sont à la tête de nos clubs. J'ai l'impression que mon inquiétude elle est en train d'être rejointe par celle de beaucoup de gens.
Et parler un peu dans le sens de ce que dit Laurent, c'est vrai que Laurent tu disais Jean-Pierre River s'en va. Il y a aussi un homme qui a été très très important dans la venue également de Patrick Vieira à Nice, c'est Julien Fournier, exactement.
Ouais, non mais c'est le duo qui se barre.
Non mais
duo,
Julien Fournier vraiment avait fait mais de Patrick Vieira un pari aussi très personnel.
C'est-à-dire que des gens qui sont compétents, qui ont redonné de l'espoir à tout un club en ayant cherché Claude Puel, qui t'a...
Et puis le recrutement, quand même. Ils ont un recrutement intelligent, ces gars-là, hors Ligue 1, etc.
Qui t'a posé les fondations en allant chercher quelqu'un comme Favre, qui est un entraîneur exceptionnel.
Voilà,
je sais même pas comment... Ouais. Le recrutement qui a été intéressant,
Favre est passé en Ligue 1.
Tenter des coups comme Ben Arfa, comme Balotelli, il fallait les tenter ces coups-là. Les autres ils l'ont pas fait.
Ces coups-là ne seront plus tentés parce que c'est des mecs que tu vends pas, que tu veux.
Mais c'est déplorable de voir que des gens aujourd'hui qui ont de la qualité et qui sont compétents, vont être remplacés par des gens peut-être incompétents pour la loi du marché. Et c'est vrai que je rejoins Daniel là-dessus.
Attends,
C'est vrai que le
Nice, il y a pire, hein.
quand t'es un...
Le pire, c'est Bordeaux, le pire.
Quand t'es un peu un avec romantique...
Tu as pété un câble.
Ah, c'est un fameux tweet. Défaites, ouais. Ah oui, bien sûr.
Bordeaux, c'est pire, hein, Ludo.
Mais c'est dans la même... Ex, c'est dans la lignée. C'est dans la lignée.
C'est pas des ex, c'est des...
Bordeaux, je me demande si c'est même, ouais, enfin,
on verra. Mais ouais, c'est vrai que, en tant que, comme Daniel le dit, en tant que romantique du football, bah, tu prends un coup derrière la casquette quand même.
Mm. Laurent, merci d'avoir été avec nous.
Est-ce que je peux rajouter un dernier mot?
Vas-y, Laurent.
En fait, ce qui prouve vraiment, c'est des zouaves, les nouveaux dirigeants à Nice. Tu sais pourquoi?
Vieira était à un point. C'est belle l'expression, zouaves.
T'as quel âge, Laurent?
Ah, c'est des zouaves. Moi, j'ai 48 ans.
Des uluperlus.
C'est des zouaves avec un grand Z. Pourquoi? En matière de football, hein, je me permettrai pas, sinon. Oui. Mais tu sais, ils sont à un point des places européennes. En étant la 19e attaque, vu le travail de Vieira, Nice, avant le match de Lille, était à un point des places européennes. Avec ces trois joueurs qui arrivaient, les Boudbouze, les Germain, et je crois que le troisième c'était Belanda, mais j'en suis pas sûr, on peut penser quand même que vu le bon travail de Vieira, Nice aurait pu glaner peut-être la cinquième, voire la quatrième place, et c'était tout bénef pour la revente des joueurs s'ils veulent faire du training. Alors que là, ça commence par le 4-0, parce que je pense pas qu'il y ait 4-0 entre les deux équipes. Nice avait gagné 2-0 à l'aller. Bon, c'est un peu entre les deux, tu vois certainement le niveau réel des deux clubs. Donc là, je pense que c'est complètement absurde de faire ce genre de refus de mercato. Cato, tu vois, je vois pas l'intérêt même financièrement. Bon, voilà.
Ce qui est navrant quand même, c'est que le challenge sportif est devenu moins rémunérateur et moins excitant
absolument.
Que de vendre des joueurs,
bien sûr.
Ouais,
bien sûr,
c'est écœurant.
Non, en fait, ce qui est dingue dans ce modèle-là en France, c'est que contrairement à d'autres championnats, t'as des vrais revenus au niveau des droits télé. C'est-à-dire que quand tu regardes le pourcentage de ce que représentent les droits télé dans les revenus des clubs,
évidemment.
C'est-à-dire les transferts.
Mais tu crois qu'ils sont venus pourquoi les mecs?
Non, mais justement. Mais
les
on en revient. Je vais dans le sens de ce que tu dis.
Grossa, machin, ils sont venus.
C'est-à-dire quand tu vois ce que les clubs ont palpé,
quand ils ont vu que les droits télé ont augmenté.
Tu pourrais limite
parce que
te dire.
Ça, ils savent déjà que
justement.
Ils dans la
et
poche,
tu pourrais
ça.
Te dire, on va peut-être pouvoir compenser finalement le fait de garder un joueur et compenser ça, de garder un peu plus longtemps avec les droits télé.
Pas du tout, Nico. Il va le croquer. Ils sont venus pour le
steak. Mais moi aussi, j'ai un côté romantique, mon Dali. Je sais, oui.
C'est dividendes supplémentaires.
Tu passes au petit beefsteak à l'entrecôte là.
C'est dingue. La fameuse là.
Black Angus. T'es en Black Angus.
Merci Laurent d'avoir été avec nous.
Merci pour votre émission.
Ciao Laurent, merci, c'est gentil. À bientôt Laurent.
Pologne, là, je sais pas quoi, là.
J'ai pas de mal de la Pologne, Daniel, s'il te plaît.
Non, je sais plus, elle arrive d'où, la viande d'arriver. C'était de Pologne,
d'accord. Ouais, comme par hasard.
Ah oui, bien. Ouais, Ludo. C'est pas du Portugal.
On va accueillir Noé, il est là, Daniel. Noé, là, supporter du LOS, qui nous attend, patiemment au
36.
Salut Noé.
Salut les gars.
Ça va?
Ça va, Noé, ou quoi?
Bah,
ah, écoute, la vérité, avec ce qui tombe dehors, j'étais sûr que t'allais pointer, hein.
Un grand merci.
Le déluge, bien entendu.
Je dois dire un grand merci à Ludo Bragnac.
Mais de rien.
C'était vraiment magique.
Non, voilà. Merci à vous.
Il y a plusieurs cordes à son.
Vraiment bien.
Alors Noé, on va se faire cette petite éval de ce Lille-Nice. On rappelle 4-0, les buteurs Lien, Pépé, Bamba et Rémi. Côté niçois, victoire 4-0 de Lille face à Nice. Tu voulais faire une petite analyse du match avant ou pas? Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans ce match, toi?
Alors, ce qui m'a marqué, c'est, en fait, je voudrais juste dire que par rapport à l'an dernier, on sent qu'ils sont hyper heureux, les joueurs, et on voit toujours les sourires sur leur visage, et c'est beau quand t'es supporter, parce que l'an dernier, c'était assez compliqué, on avait une ambiance un peu morose, et cette année, au contraire, on voit qu'ils prennent du plaisir, et on voit Thiago Mendes, Pepe qui reste, et ça se voit ce soir, ils jouent super bien, et on en plante 4, donc c'est génial, et je voudrais aussi parler de Koné, qui a remplacé Fodébalo Touré, parce que on pouvait avoir des doutes, on pouvait se dire mince, on a perdu un super défenseur gauche, mais au final,
excellent match.
On voit pas la différence et il est vraiment super bon. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui qui récupère la balle pour le premier but. Donc, vraiment super joueur.
Alors, on va débuter cette éval, les gars, l'évaluation de ce Lille-Nice. Qui pour vous est le cador de ce match?
Pépé,
ouais. Tout le monde est d'accord.
Oui.
Il est d'accord aussi, Noé.
Ouais, clairement, Pépé, il est vraiment bon et son deuxième but, il est vraiment dingue.
Qui pour vous est le pied carré de ce Lille-Nice?
À Nice, je sais même pas quel joueur tu peux. Je crois que les joueurs qui ont le plus touché le ballon, c'est les défenseurs.
On a ça se déchire, c'est vrai.
Ouais, voilà. Tu t'en prends un qui a souffert. Le pauvre, il est sorti à Tal.
Ouais.
Mais son début de match est vraiment pas bon.
Il a sauté en
ça peut être un Casper.
Et Spelou, il rentre et bim, direct en rouge.
Parce que j'ai presque l'impression qu'il est presque involontaire, mais.
Donc tu choisis mon vieux.
Lui.
Allez, veux qui, Noé?
Tu fais un pot pourri.
Bah, je voudrais quand même parler de l'arbitrage parce que le carton rouge de Lesmelou,
Non, c'est quand je vois ce que tu veux dire. Tu certes, même si c'est, il lui met une semelle, je sais. Alors, tu étais au stade ou tu l'as vu?
Non, j'étais sur Canal, donc j'ai vu tout le ralenti.
Ah, c'est quand même, tu peux pas passer au travers. Là, ça a pas l'air particulièrement volontaire, mais le tu vois, si tu peux pas laisser passer ça, quoi. En plus, avec ce qui s'est passé ces derniers temps, avec Thauvin, la suspension, etc., là, t'es sûr que tu as le droit.
Et bah, laisse Melo, alors.
T'as raison. Quand même.
Le taulier de ce Lille-Nice, les mecs.
Thiago Mendes,
ouais.
Il fait un clairement. Bon match encore.
Ouais. Heureusement qu'on le garde, lui. Heureusement qu'on le garde, parce que Thiago Maia, par rapport à lui, c'est Thiago. Les deux, c'est des Thiago, mais la différence de niveau, elle se voit vraiment.
Il suffit pas de s'appeler Thiago pour bien jouer au foot.
Pourtant, il y en a eu des bons. Hein.
Même s'il y en a quand même la plupart.
Ah ouais.
En fait, est-ce qu'il y a plus de bons ou de pas bons en Thiago?
Parce que les Thiago pas bons,
il y a plus de bons, non?
Ouais.
Il y a eu Thiago Silva.
C'est qui les pas bons? Thiago.
Il y a eu Thiago tout court.
Même Thiago tout court, c'est bien.
De Lyon,
tout court.
Celui qui est à Lyon.
Ah ouais, celui qui est à Lyon, Chelsea.
C'est fabuleux.
Bah, j'ai adoré, oui, bien sûr. Bien sûr. Non, Alcantara, des Thiago pas bons.
Hein? Alcantara, mais c'est un bon aussi.
Bah, c'est bien, ouais. Bah, non, il est pas bon, moi, je te dis.
Thiago.
Bah, c'est bon, hein. Ouais, ouais. T'as un fils, appelle le Thiago, et ça marchera. Hein.
Ouais. Jacques.
Bah, Rio, hein.
C'est quoi, traduction, Thiago?
Jacques.
C'est Jacques?
Santiago, c'est Saint-Jacques. Santiago de Compostela.
Ah, parce que c'est diminutif de ça, mais oui.
Santiago, c'est.
Donc, Thiago, c'est Kyoge.
C'est exactement. Ouais. C'est que je. Le Casper, les gars, de ce Lille-Nice.
Bah, demande à Noé. Mais il est encore là.
Oh, Noé.
Je suis encore là. Le Casper, bon, je pense que dans l'équipe lilloise, il n'y en a pas. Hein. On a, tous les jours, on fait un bon match. Dans l'équipe de Nice, je dirais l'équipe entière, ou alors Saint-Maximin, parce que Saint-Maximin, il est quand même là pour faire les différences, il est là pour dribbler et tout. Et il n'a pas vraiment apporté de danger, j'ai trouvé.
Ouais. Ça décharge là.
Il était assez dur.
Moi,
ouais, c'est dur pour lui ce soir.
Franchement, l'équipe niçoise dans son ensemble était absente ce soir.
C'est triste, mais. Merci Noé d'avoir été avec nous.
Un dernier truc, s'il vous plaît.
Oui.
J'aimerais passer une dédicace à Martin, Thomas et Nico. Voilà. Et merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et j'espère qu'on pourra se reparler.
Et bah bientôt Noé. Ça roule,
les gars. Bonne
soirée. Ciao. Salut.
Je crois qu'il voulait les animaux pour remplir son gros bateau.
Il a décidé d'aller jusqu'au bout, Daniel.
Métaphore filée, jusqu'au bout de Laval, bien entendu. Dans quelques instants, les gars, on sera avec Guillaume. Vous savez quoi, Guillaume? Il habite aux Émirats Arabes Unis. Et il a assisté à la finale de la Coupe d'Asie des Nations entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis, justement, cet après-midi. Victoire 3-1 du Qatar. Une première, d'ailleurs, pour les Qataris qui ont remporté, donc, cette Coupe d'Asie. On vous attend au 32-16 avec Daniel Riolo et avec Ludo Bragnac. À tout de suite.
RMC Football Show. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo, avec Ludovico Bragnac, on vous rappelle, première affiche de la 23e journée de Ligue 1 ce soir, et Lille s'est imposé 4-0 à Nice. Autre fait du jour, autre résultat important du jour. Tiens, allume ton micro.
Voilà. J'arrive pas à trouver de mauvais Thiago.
Bah, moi j'en connais, mais ils sont pas connus, quoi. Tu vois, des Thiago du bled, quoi. Thiago Pinto qui est le fils de Joao Pinto.
Il y a un Thiago qui joue à 3, sur non, aussi, un boucher un peu. Là.
Ah, Thiago Xavier, non?
Ouais.
C'est pas lui, hein?
Ouais, rasé.
Il était pas mauvais, hein?
Le mec était violent. Ah, il y a 10 ans?
Ouais, c'est lui.
Oui, il était pas si mauvais
que ça. Il était pas mauvais, il était violent.
Oh, il était
commenté, toi, je pense, à l'époque.
Non, il était pas si mauvais que ça, au milieu. Ouais, au milieu, il te tenait l'équipe, hein? C'est attends, c'était niveau Ligue 2, on parle de la Ligue 2. Je sais pas si terrible que ça. Non. Non, il y a une base, hein?
Par rapport aux autres.
Il y a Thiago Motta, il y en a quelques-uns. Thiago Neves.
Alcantara.
Ah non, mais il y a une base, quand tu t'appelles Kyoge au foot, c'est bien, quoi.
Et cet après-midi, donc, le Qatar a remporté la Coupe d'Asie des Nations 2019. Victoire 3-1 en finale face au Japon. Alors, victoire aux Émirats Arabes Unis, en plus. Et on a Guillaume, alors, qui vit à Dubaï, voilà, qui a assisté à cette Coupe d'Asie des Nations. Il a regardé tous les matchs, ou quasiment tous. Du moins, il a assisté à la finale, Guillaume, qui est avec nous en direct dans l'after. Expat, Guillaume. Et à Dubaï. L'after. À Dubaï.
Bon, il est dans le blé, lui.
Salut, Guillaume.
Bonsoir à tous.
Voilà, question importante, Guillaume. Qu'est-ce que tu fous à Dubaï?
Je travaille pour une boîte pharmaceutique.
Voilà.
T'as déjà mangé l'entrecôte ou pas, toi?
Les entrecôtes en or, sont quand même un peu chers, quand même.
Ah, bah, quand même, à partir du moment où t'y es, t'y vas, quoi. Je sais pas, tu bouffes pas pendant une semaine, mais tu as.
Mais j'attends, je crois que
t'es déjà au moins allé dans le resto, même si t'as pas pris l'entrecôte en or.
Ouais, aller dans le resto, oui.
Quand même.
Mais Jérôme Rotten doit venir, non? Il n'avait pas dit ça à un moment?
Il devait venir la semaine dernière, il y a un petit souci, il n'est pas venu.
Ah.
T'es à Dubaï depuis quand, Guillaume, là?
depuis 2011.
D'accord. Et donc, tu as assisté à la finale cet après-midi entre
2011,
le Qatar et le Japon.
Tout ce qu'il a dû mettre en valise déjà.
Il est mis de côté, Guillaume.
Chut, il faut pas dire.
Ah non, nous on peut dire, tu sais, on a reçu les mallettes depuis longtemps. Hein. Donc avec Gilbert, on n'a rien filé à Niki. Hein. On a tout gardé pour nous.
Du coup, t'as assisté à la finale, Guillaume, cet après-midi?
Ouais, c'est ça.
Alors déjà,
comment ils ont fait pour se monter une équipe de foot, le Qatar, là?
Ils ont quelques bons jeunes, d'ailleurs.
Mais moi, je savais pas.
Ça bosse bien avec, Belmadi a fait un gros travail là-bas, d'ailleurs, avec les jeunes, notamment.
Ouais, pas mal d'années. C'est pour ça, je savais pas qu'il, je pensais pas qu'il pouvait
de l'Algérie. D'abord, elle était comment l'ambiance, Guillaume? Parce qu'on sait que c'est très tendu entre les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Est-ce que ça a été fêté par, est-ce qu'il y avait des supporters du Qatar? C'était comment?
Ouais, il y avait des supporters, il y avait un peu de supporters du Qatar, mais il y avait beaucoup aussi de supporters de Oman qui soutenaient le Qatar et des supporters iraniens qui soutenaient le Qatar aussi. Ouais.
C'est vrai qu'il y a un mélange géopolitique là.
Effectivement. Dans le Middle East, surtout avant d'être à Dubaï, j'étais en Égypte, donc le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, c'est très, en termes géopolitiques, c'est très intéressant, on va dire. Mais il n'y avait pas de, c'était pas une ambiance délétère. C'était un peu plus chaud pendant la demi-finale, forcément, hein. Les Émirats contre les Qatar, c'était un peu plus chaud. Mais la finale, sinon, c'était, l'ambiance était assez bonne.
C'était pas trop tendu, quoi, alors?
Non, pas du tout.
Et alors, dis-nous, est-ce que c'est vraiment bon le Qatar, alors? Parce qu'ils remportent là leur première Coupe d'Asie, mais...
Ben le Qatar a été, en fait le Qatar a joué d'une manière, ils étaient très très compacts et assez étonnés parce que les Japonais d'habitude, enfin les Japonais quand même, on sort d'une Coupe du Monde où ils ont failli éliminer la Belgique et ils étaient très très faibles, hein, techniquement c'était très faible, en termes de passes de passes ratées, les passes pas très précises. Et ils voulaient, on avait l'impression qu'ils voulaient rentrer avec le ballon dans les buts, aucun tir de loin. Donc le Qatar a marqué très vite, hein, au bout de 12-13 minutes, ils ont marqué le premier but, le deuxième but est arrivé à la 25e et puis après ils étaient tranquilles. Et vu que les Japonais finalement étaient assez inoffensifs, ben ils ont bien défendu et en deuxième mi-temps il y a eu un contre. D'ailleurs aussi sur la ligne de l'after de Gilbert et de Daniel contre la VAR, parce que le troisième but sur penalty, finalement l'arbitre n'avait pas vu la penalty, donc le match devenait intéressant quand le Japon est revenu à 2-1, mais il y a eu un corner sur un contre, il y a eu un corner et puis il y a eu une main, et puis après, une fois que l'action a repris, l'arbitre est revenu sur sa décision, est revenu avec la VAR pour siffler un penalty, donc ça a plus ou moins tué le match. Et puis après, à 3-1, c'était terminé. Hein.
Donc, je viens de voir les buts des Qatar, ils ont des sacrés buts. Ouais.
Le premier,
c'est ouf. Là.
Le premier.
Même le deuxième, la frappe lointaine.
C'est le retourné aussi.
Il jongle, bah oui, une espèce de retourné. La frappe, le deuxième était super beau. Ouais. La frappe dans la lucarne. Ouais. En plus, on était de ce côté-là.
Et ils ont que des vrais Qataris ou il y a...
Non, il y a des quelques étrangers, mais pas tant que ça.
Il y a combien de...
Il y a quand même pas mal... de double nationalité. D'ailleurs, il y a eu une polémique après la demi-finale. Donc, les Émirats ont fait une réclamation auprès de l'AFC sur le fait que deux joueurs, ils contestaient le fait qu'ils aient la nationalité qatari parce qu'ils n'avaient pas habité assez longtemps au Qatar. Donc, l'attaquant qui a marqué 9 buts, c'est le record de Coupe d'Asie. Le record était détenu par
Al-Moez Ali, ouais.
Ouais, le Moez Ali, le précédent record était détenu par Ali Daei, si vous
souvenez. Ah, oui, Ali Daei, l'Iranien, bien voilà. Sûr.
Et l'attaquant, par exemple, il a une nationalité soudanaise et qatari. Et un autre joueur qui a une nationalité qatari et irakienne. Donc, et quelques heures avant, ils ont été, il y a un portugais, il y a aussi un français.
Soyons clairs.
Il y a aussi un Qatari d'origine française qui est né à Rueil Malmaison, donc pas loin.
Ah ouais, c'est qui?
Pas loin de... Ah, je me rappelle plus son prénom. Mais il y a des origines des Qataris d'origine algérienne aussi, un portugais. Et donc ils ont...
Il est là-bas depuis longtemps, hein. Il s'appelle Roro d'ailleurs, il est défenseur. Ouais.
Mais ils sont là-bas depuis longtemps et l'entraîneur.
Pour construire les stades ou comment ça s'est passé?
Il est con. Ils se sont dit, il vient que tout faire là, bien sûr, foot. Ils l'ont repéré sur un chantier.
Après, ils ont vu qu'il jouait bien. À la pause déj, il a fait un match. Ils ont dit, il est très bien dans l'équipe.
Pas mal, lui.
Guillaume, au-delà de ça, on peut quand même, si on exclut ces joueurs binationaux, est-ce que, il y a quand même une jeunesse florissante du côté du Qatar. On a vu quelques bons jeunes.
Non, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que même l'entraîneur, donc l'entraîneur espagnol, était avant l'entraîneur des U21, des U19. Il a fait beaucoup de catégories de jeunes, et c'est des, il y a beaucoup de jeunes qui sont montés de différentes catégories avec le même entraîneur. Donc, forcément, en même temps, depuis qu'ils ont eu la Coupe du Monde, ils ont une stratégie en place pour essayer de faire en sorte que l'équipe ne soit pas ridicule à la Coupe du Monde. Et il y a quand même une stratégie. Donc, il y a des Qataris. Qui sont formés qui ont été formés dès leur plus jeune âge, donc à 12-13 ans, et qui vont atteindre normalement maturité pendant la Coupe du Monde.
Et il s'appelle Karim Boudiaf, hein, le joueur dont tu parlais, qui est d'origine française, qui est né à Rueil-Malmaison. Alors, il a fait sa formation à Lorient puis à Nancy. Il est au Qatar depuis 2010 quand même, hein, à Al Duail. Club d'ailleurs où vient de débarquer Rui Faria, qui avait été l'adjoint de Mourinho pendant 17 ans. Et justement, il y a cette fameuse Coupe du Monde là qui va avoir lieu au Qatar là, en 2022. Est-ce qu'on sent déjà un certain engouement dans la région ?
Ah bah là, les mecs ils vont se dire on peut passer le premier tour là.
Ouais.
L'engouement dans la région, en ce moment, vu que c'est un peu quand même tendu, donc l'engouement.
C'est plus au Qatar.
C'est plus au Qatar. Après, les autres pays espèrent des retombées économiques, forcément. Parce que ça va être un événement important. Donc, sachant que là, il va y avoir quelques années intéressantes. L'année prochaine, en 2020, il y a l'Expo universelle à Dubaï. En 2022, il y a la Coupe du Monde au Qatar. Donc, ça fait pas mal, d'événements intéressants sur une période très courte.
Ouais, et le Qatar, donc, c'est vrai, Jérôme me le ressouffle, il a raison. Faut pas oublier que le Qatar est convié également à la Copa América.
Hein, ah oui, le Japon aussi d'ailleurs. On va aller voir en mois de juin d'ailleurs. Oui, bien sûr.
Ça va être intéressant aussi pour eux. Mais c'est là, ils sont en train. Donc c'est un peu comme ce que Quiroz a fait avec l'Iran. Ils sont en train d'avoir une équipe. Ils travaillent avec la même équipe depuis un certain temps.
Donc oui, c'est une préparation au long cours, quoi, sur des années en fait.
Ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc avec la cible finale, donc la Coupe du Monde.
À l'époque, Hiddink a fait ça avec la Corée du Sud avant la Coupe du Monde. Il avait bossé très 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 longtemps avant. Ça, plus de cachetons, demi-finale.
Guillaume, merci d'avoir été avec nous.
Pas de rien.
Et bonne soirée, mon gars. Et puis amuse-toi bien à Dubaï alors.
Il
dira au relais d'entrecôte pour nous.
Il est tard, il a l'air d'aller se coucher là.
Ouais. Et 3h,
t'as raison, le vendredi à Dubaï, c'est pas l'heure d'aller se coucher, hein, je te le dis.
Bonne soirée, Guillaume. Bonne soirée, Guillaume, salut. Merci d'avoir été avec nous. Ciao, Guillaume. Voilà, on rappelle donc la victoire du Qatar à la Coupe d'Asie des Nations qui s'est imposée cet après-midi 3 en finale face au Japon. Notez qu'Hiroki Saka était titulaire, hein, d'ailleurs, du côté du Japon. Tiens, vous savez que dimanche, il y a la belle affiche entre le Paris Saint-Germain et l'OL. Bruno Genesio était en conférence de presse aujourd'hui. Alors, on lui a demandé.
Il faut demander à lui, il voulait parler de la com de Lyon. Laissons-le parler. Il a 3 minutes.
Je vous lis la déclaration, interview de Jean-Michel Aulas dans le Progrès aujourd'hui. Voilà ce que déclare le président de l'OL. Le PSG dans l'irréel et on va jouer contre un État. On ne va pas dire qu'on est le pays uniquement des gilets jaunes, pardon. Mais un peu de décence devrait être ressentie par les instances politiques. Et puis il poursuit plus loin. Contre nous, le PSG juste sa lutte des classes, mais on est capable de renverser les montagnes, déclare Jean-Michel Aulas. Tu voulais réagir à ça, je crois, Ludo.
Ouais, revu, déjà vu. Il nous ressort la même sauce chaque année. Je suis fatigué d'entendre tout ça. On lui demande pas d'amener l'OL au niveau du Paris Saint-Germain. On lui demande de ramener l'OL à un niveau acceptable, en tout cas en termes de posture. Il est un grand président. On a tous énormément de respect pour ce qu'il a fait et ce qu'il est, mais. Quand je vois les déclarations, je l'ai dit, de Memphis, qui dit que l'OL, finalement, c'est qu'un club de passage et qui n'est pas un grand club et qu'il a envie de partir dès cet été le plus vite possible. Mais t'as envie de lui dire, mais garçon, t'y as été dans un grand club, t'as été à Manchester, t'as eu l'occasion de faire les choses. Nous, on t'a repris quand personne voulait de toi. On te prend, on te remet en lumière. Donc si tu penses que tu peux jouer dans un meilleur club, certes, tu as le droit de le penser, mais tu le dis pas ouvertement comme ça, en crachant sur le club.
Dit, ça me va bien. À partir du moment où là, ça me va bien.
Mais il peut pas lui dire ça. Il a perdu le mojo alors parce que
Ça fait des années qu'il l'a perdu. Ouais. Même une bonne partie des supporters l'ont compris maintenant. Il y en a qui l'arrivent encore à anesthésier en vendant sa soupe totalement périmée. Je suis désolé de ce qui est en train de devenir ce club qui a un budget très important,
Daniel,
mais qui n'a plus d'ambition, qui a des ambitions pépères.
Bruno Genesio,
des ambitions de, je sais pas quoi, c'est
Non mais au-delà des ambitions, il y a la communication.
Mais pour moi, il y a
le
pire.
C'est ça.
Non mais Bruno Genesio en conférence de presse, là, il y a peu, qui dit. En gros, moi, ma situation, je me sens capable d'aller coacher ailleurs. Je suis prêt maintenant. Je sais pas mon avenir proche. Il essaye de mettre une pseudo-pression parce qu'il a pas.
Attends, le mec, il a pas prolongé. Il a raison, non?
Mais tu rigoles ou quoi? Oh, il est avec ce qui s'est passé. Il l'a défendu bec et ongle. Oh là, c'est. Il a été lui pour. Il a éteint les feux partout autour de lui. Eh, tu peux pas dire ça. T'as pas le droit de dire ça.
Bah après, parfois, c'est lui-même qui a allumé les feux d'ailleurs. Ah, pour les éteindre derrière aussi. Hein.
Rigole, enfin, il communication. Il l'a toujours défendu tout le temps. Et après,
c'est PPR quoi. C'est la Renault Mégane sur l'autoroute quoi, tu vois, c'est pépère.
Ça roulait pas mal hein, putain.
Voilà, pour moi Lyon, excuse-moi, doit être une berline un peu plus importante quoi, un peu plus ambitieuse, tu vois. T'es pas pépère, file du milieu,
mais en même temps,
chien dans le coffre.
En même temps, il donne le mauvais exemple.
Ça va quoi,
ouais, à un moment donné, choisis tes batailles. Tu vois, encore aller remettre la sauce Paris, on joue contre un état,
l'argument est tellement
balaye devant ta porte,
mais
au lieu d'aller balayer devant
celle des autres. Qui répète ça bêtement, mais ça n'a aucun sens.
Tiens les gars, juste avant de partir, j'aimerais que vous écoutiez ça, puisqu'on parlait du Paris Saint-Germain. Vous savez que le PSG a vendu Yacine Adli aux Girondins de Bordeaux lors du mercato, le mercato d'hiver. Il y avait la conférence de presse aujourd'hui d'Adli d'ailleurs du côté des Girondins. Ah. Puis il y a eu cette petite phrase qui très certainement va rentrer dans l'un des jingles de l'after.
Ça. Oui. Ah.
J'arrive ici, pour moi je suis pas dépaysagé, donc voilà.
Voilà, petit mot sympa. Il
est déjà allé à la mairie, il connaît le service qui s'occupe des ronds-points.
Dédicace au paysagiste.
Exactement, paysagiste. Au jardinier, bien sûr. Les gars, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Daniel, merci Ludo, merci Jérôme Thomas, merci les équipes techniques aussi. On vous rappelle donc résultat ce
salut,
soir.
Nicky Beach.
Lille, merci, ciao Dani. Dani the Beach aussi, si tu veux. La victoire du LOS 4-0 face à Nice ce soir.
Attends, là, des Dani célèbres. Dani Wild, Dani Ocean. Ouais.
Lequel tu préfères?
Ah, les deux sont pas mal quand même.
Danny the Dog.
Lequel tu préfères?
Entre Danny Wild et Danny Ocean.
Ouais, Danny Boone.
Ah, Ocean quoi.
Ah non, là quand même. Attends, Danny Wild il était classe. Ah si, quand même.
Une
autre génération.
Ouais, mais il a pas le Wattels, tu vois ce que je veux dire. Il a pas le...
Danny Ocean, c'est vrai que c'est classe.
Ah ouais.
Ah
non, excusez-moi, Danny Wild.
Ouais, joue au jeu quoi, poker.
Ouais, voilà. Ah mais les deux, je prends les deux. Franchement, ils sont bien les deux. Ciao.
RMC Football Show, l'After Foot.